Bonsoir à tous, donc bienvenue à cette petite conférence organisée donc par Raison d'Agir et Alternativa. Aujourd'hui, on va vous présenter Benoît Chocard et François Ruffin. Donc, Benoît Chocard, vous êtes sociologue donc à l'INRA, l'Institut de Recherche, l'Institut National de Recherche en Économie, à Dijon. Et donc, vous avez étudié particulièrement les milieux sociaux ruraux avec donc votre dernier livre à la découverte en 2019, qui est « Ceux qui restent », qui parle donc des jeunes dans les milieux ruraux et leur devenir dans ces milieux qui sont en déclin pour certains médiatiquement. Et donc, vous avez étudié particulièrement tout sous le prisme sociologique, toute l'étude sur la campagne en général, sur le travail des jeunes. Et on va aujourd'hui s'intéresser un petit peu à la question de la lutte des classes, de la sociologie écologique aussi. Et donc, en interaction avec M. François Ruffin sur toutes ces questions qui nous concernent de plus en plus sur l'avenir. Gérard.
Oui, alors François, donc, journaliste, écrivain, documentariste, réalisateur d'une part et homme politique d'autre part. Alors, en ce qui concerne ses activités journalistiques et littéraires, on lui doit quand même beaucoup de choses, et notamment, à ses débuts, un des piliers de Là-bas, si j'y suis, notre regrettée émission de France Inter, de Daniel Mermet. Il a été le fondateur et le rédacteur en chef du journal Fakir en 99 et en 2009, Fakir est devenu à Diffusion Nationale. Il a écrit beaucoup, dont j'en cite que quelques-uns, « Ce pays que tu ne connais pas », dédié à qui déjà, tu me le rappelles Macron, Emmanuel Macron, en 2019, suivi de « Il est où le bonheur ?» Et un petit dernier pour la route, peut-être, « Leur progrès et le nôtre » de Prométhée à la 5G. Alors, c'est bien parce que c'est une délocalisation, finalement, hein. François, lorsqu'il vient ici, se délocalise d'Amiens, donc c'est super pour nous. Alors, en tant que documentariste et réalisateur, on lui doit notamment Merci Patron, qui a été césarisé en 2017, et Je veux du soleil sur le mouvement des Gilets jaunes en 2019. Alors, en tant que comme engagé dans la politique et le politique, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 400 avant notre ère, c'est pas de quoi je parle, hein, Brennus, chef gaulois, disait aux Romains, qui a été battu, malheur au vaincu. Et là, ce gouvernement, en ce moment, c'est un petit peu ça. Enfin, ces gouvernements qui se sont succédés, c'est un peu malheur aux pauvres, malheur aux faibles et malheur aux sans-dents. Ça vous dit, doit dire quelque chose. Donc François est un des acteurs centraux de la nuit, de Nuit Debout. Alors Nuit Debout, heureusement qu'il n'y avait pas le Covid, parce qu'on n'aurait pas pu l'appeler comme ça. On était assis. Mais bon, c'est déjà ça. Il a soutenu le combat des travailleurs de Whirlpool, le combat contre la loi du travail et toutes les lois scélérates là, qui sont en lice depuis quelques années. Fondateur de Picardie Debout en 2017, il est élu député dans la foulée et a fait pas mal de propositions de loi, dont une qui a été retoquée par un député de La République En Marche, sur le burn-out, bien sûr, hein, on ne va pas rebondir, on ne va pas chipoter. L'interdiction des vols courts, lorsqu'il y a des possibilités de déplacement par le train. L'extension du RSA, là on dirait que ça avance un petit peu. L'interdiction aux dirigeants d'une entreprise déposant le bilan de se poser comme racheteur. La revalorisation des femmes de ménage. C'est vrai qu'à l'Assemblée nationale, dans les ors.
Bon. Je l'annonce quand même, on vient de gagner aujourd'hui le 13e mois pour les femmes de ménage de l'Assemblée nationale.
Voilà. Juste donc, si on peut résumer la question, on était parti sur lutte des classes et lutte écologique. Est-ce que c'est une lutte qui est contradictoire? Est-ce qu'on peut avoir de l'inclusivité? Est-ce que finalement la question se pose ou est-ce qu'on est dans un faux débat?
Bonsoir à toutes et à tous. Peut-être un petit mot quand même pour te remercier, pour remercier toutes les organisatrices, les organisateurs de cette soirée. Je suis très content d'être là à Poitiers. J'ai habité ici il y a quelques années. Et voilà, je suis très content de vous voir ce soir. Qu'est-ce que ça m'a inspiré, en fait, cette thématique, quand j'ai vu Fin du monde et fin du mois? Ça m'a d'emblée faire penser à mes travaux de recherche. Je pense que c'est un petit peu pour ça que vous m'avez invité. En fait, pour le dire en deux mots, j'ai la chance depuis une dizaine d'années de suivre un peu le quotidien de jeunes gens, vingtenaires, trentenaires, qui sont ouvriers, employés en milieu rural, plus particulièrement dans des coins du Grand Est qui sont basés sur l'industrie métallurgique. et qui aujourd'hui notamment subissent plus de plans sociaux qu'il n'y en a eu lors de la crise de 2008, qui sont passés largement sous silence, mais en tout cas, leurs vies sont largement impactées par ça en ce moment. Et le thème de l'écologie est quelque chose d'assez compliqué à aborder avec eux, vous vous en doutez bien, parce qu'on sait que les classes populaires, de manière générale, lorsqu'on fait notamment des sondages en sociologie, sont celles qui vont se montrer le plus réticentes à l'égard des mesures traditionnellement portées par les partis écologistes, alors même que, bon, aujourd'hui c'est très connu, hein, mais le bilan carbone de quelqu'un qui prend simplement son 4x4 ou sa voiture et qui habite en milieu rural est bien moindre que quelqu'un qui vote écologiste et qui prend l'avion 2 fois par an. Et ça, on sait que, notamment, je vous renvoie aux travaux de mon collègue Jean-Baptiste Combi, qui montre bien comment, en fait, plus on est favorable à l'écologie, plus on appartient à des milieux sociaux qui ont un bilan carbone élevé. En fait, c'est un petit peu les contradictions, bien évidemment, qu'il y a des gens qui conscientisent ça et qui vont le baisser. Mais en tout cas, on en est là aujourd'hui. Et par rapport à ça, il me semble qu'il y a un vrai fossé, en fait, entre la manière dont vont exprimer leurs conditions de vie les personnes que je suis depuis ces années-là et la manière dont on les juge, en fait, de l'extérieur. Alors, tout de suite, ce qui m'est venu un petit peu en tête, c'était un mail en fait, que j'avais reçu en 2018. Donc, on est au premier week-end de mobilisation des Gilets jaunes, la veille de la mobilisation des Gilets jaunes. Moi, j'ai commencé mon enquête de terrain en 2011. Et je suis à peu près 100 de personnes, quoi, de manière un peu diffuse. Et une grande partie d'entre eux s'engagent dans ce mouvement-là. En fait, ils se sont déjà engagés dans le mouvement des 80 km/h, qui a été très, très suivi en milieu rural, dont on a moins parlé à la télé. Et c'est les mêmes qui vont donner naissance au mouvement des Gilets jaunes. Donc on pourrait y revenir si vous voulez tout à l'heure, mais bon, évidemment ça m'interpellait, je voulais être là le premier jour, c'était que les femmes par exemple qui avaient monté tous les groupes Facebook et qui étaient là le premier jour pour organiser tout le mouvement politique qui prenait forme. Et de l'autre côté, je reçois un mail en fait d'un éditorialiste connu sur une boucle mail, un peu d'échange comme ça entre... des mails entre un télo qui s'envoie, il dit « Ce peuple dingue de sa bagnole va nous mener droit dans le mur, moi demain je prendrai mon vélo fièrement pour aller à la COP21 ». Et en fait, il exprime vraiment une forme de mépris en fait, pour ces gens dingues de leur voiture. Donc je me dis, il va quand même falloir que j'aille y voir un petit peu de la manière dont ils vont, eux, s'en justifier, d'être dingues comme ça de leur bagnole. Et les premiers mots qui viennent, en fait, ce jour-là, donc on est le premier samedi des Gilets jaunes, c'est ce Vanessa, qui est une enquêtée, comme on dit en sociologie, que je suis depuis pas mal de temps, et qui me dit, en fait, la voiture, pour nous, c'est le billet de trop. C'est-à-dire que, typiquement, elle tient à son style de vie rural, elle vit loin des grandes villes, elle sait qu'il faut aller travailler de plus en plus loin, aller chercher du travail de plus en plus loin, et que, pour accéder à l'envie aussi d'être propriétaire, hein, on est sur des classes sociales où la droite a tout à fait su en fait appuyer sur un petit ressort qui est l'envie d'être, comme ils disent, maître chez soi, d'être dignement propriétaire, et le tous propriétaire de Sarkozy les avait beaucoup séduits. Et beaucoup en fait des jeunes couples que je suis, ils ont tendance à faire leur budget simplement avec le crédit immobilier, en se disant que le coût de la vie est moindre, qu'à côté on fait du potager, de l'échange, qu'on se donne des coups de main, mais que le billet de trop, c'est quand en fait le travail qu'on comptait obtenir à quelques kilomètres de chez soi, eh ben, on est obligé d'aller le chercher à 30, 40 bornes. Et typiquement, bon, dans le Grand Est, je pense qu'il y a des paysages qui ressemblent un petit peu à ça par chez vous, mais la France rurale de l'Ouest est assez différente de la France rurale de l'Est. On est sur des villages-usines, pour beaucoup, qui sont construits autour des bourgs, comme ça, qui sont formés de petites cités ouvrières, de petits HLM, de maisons groupées, d'habitats groupés. Et puis, quand l'usine ferme, là où j'ai principalement enquêté, il y a l'usine qui ferme en 2010, 350 emplois dans un village de 1500 habitants. Ben, d'un seul coup, quand vous avez la vingtaine, vos perspectives d'avenir, en fait, elles se referment devant vous brutalement. C'est-à-dire que vous vous êtes dit, je vais rentrer de manière assez routinière, comme maman à l'usine, quand c'est l'usine textile, donc employer beaucoup de femmes, ou comme papa à l'usine métallurgique. Et puis, finalement, l'usine, elle n'emploie plus que des intérimaires. Donc, déjà, vous rentrez dans la précarité. Et puis, petit à petit, en fait, l'usine, elle ferme parce qu'il y a la délocalisation. Donc là, vos perspectives d'avenir se ferment, mais vous vous dites, moi, en fait, je veux vivre là où je suis connu et reconnu socialement. C'est-à-dire qu'ils ont beau jeu de dire, les jeunes de classe populaire qui habitent là-bas, à la ville des personnes. Vous avez que de me dire, à Paris, Paris, jamais de la vie. Et les injonctions à la mobilité que porte notamment, j'ai eu l'occasion, moi, de débattre avec Gabriel Attal, qui était, promoteur d'une injonction à la mobilité en disant le problème en fait de ces catégories sociales là, c'est qu'elles ne sont pas assez mobiles, c'est qu'on peut pas les envoyer à la ville du jour au lendemain parce que finalement ils seraient un petit peu encroutés à leur style de vie loin des métropoles qui sont en fait porteuses évidemment des flux économiques et qui leur permettraient de s'en sortir. Évidemment que eux, ils n'ont pas envie de ça et qu'ils me disent, en fait, dans les métiers qu'on fait, typiquement c'est des métiers manuels, qui sont relativement peu valorisés, notamment pour les jeunes, parce qu'ils ne nécessitent pas de diplôme, et qu'aujourd'hui, quand vous êtes un jeune, que vous n'avez pas le bac général, vous avez déjà l'impression d'être un petit peu mis à l'écart des trois quarts de la jeunesse qui vont faire des études supérieures. Mais là, en fait, dans ces espaces-là, on a une espèce d'entre-soi, c'est peut-être des choses qui ne viennent pas comme ça sous le sens, mais aujourd'hui, les ouvriers, les employés, très massivement, ils sont loin des grandes villes, ils habitent dans ce que certains appellent la France périphérique, et ils arrivent, en fait, en maintenant leur vie dans ces espaces-là, à faire ce que Bourdieu appelait un espèce de renversement de la table des valeurs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'impression pour autant de, entre guillemets, rater leur vie ou d'être exclus de quoi que ce soit, sans avoir besoin d'aller faire des études supérieures, sans avoir besoin en fait de cocher toutes les cases de l'homme ou de la femme accomplie telles qu'elles sont légitimes à l'échelon national. À l'échelon local, ça ne se passe pas comme ça. Et donc, ils persistent en fait à vouloir vivre là où ils sont connus, là où, comme ils disent, ils ont les vrais potes sur qui compter, et là où ils appartiennent en fait à un collectif. Et très tôt, en fait... Pardon ? Attends, je te reparle après, parce que... Et donc, en fait, ils persistent un petit peu à vouloir tout le temps me dire qu'eux ne seraient pas finalement exportables, et qu'il y a d'autres systèmes de valeurs que celui qui prévaut à l'échelon national. Et ça, à mon sens, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop l'habitude de traduire dans le champ politique et qui ne se retrouve pas, en fait, dans ce qu'on leur propose, dans la manière de s'identifier, dans la manière de parler d'eux-mêmes. Parce que si on voit un petit peu la façon dont aujourd'hui on aborde, y compris à gauche, ces milieux populaires, on a deux facettes d'une même pièce qui s'entralimentent un petit peu. D'un côté, on a, en fait, des discours sur l'idée que on serait là face à une forme de peuple... hostile à la mondialisation, peuplé de ce qu'on appelle parfois des beaufs, plus ou moins racistes. Je me rappelle en fait d'un article qui portait sur les villages où j'ai grandi, et notamment qui portait sur des personnes que je connaissais, qui titraient dans ces villages de Haute-Marne, on voit des on ne sait pas, parce que je suis au Marnais, qui est un petit département du Grand Est de la France. Et en fait, on y décrivait une espèce de sociabilité complètement morte où chacun passait son temps à ruminer derrière la télé contre les étrangers et avait la haine de son voisin. Et c'est-à-dire que ça corroborait tout à fait, en fait, les théories qui ont été portées depuis l'extrême droite mais qui ont gagné, il me semble, tout le champ politique aujourd'hui, enfin, en tout cas, toute une partie, qui serait que ces 10 petits blancs, alors eux, ils ne se présenteraient pas du tout comme ça, parce qu'ils ne se voient pas du tout comme petits et puis le terme racialiste ne permet pas de se définir, que ces 10 petits blancs, en fait, seraient en insécurité culturelle et que finalement, ils auraient fui notamment les banlieues et notamment les autres classes populaires issues de l'immigration. Et ça, c'est une théorie qui aujourd'hui est archi-dominante, en fait, dans mon champ de recherche et dans les médias, c'est relié à la théorie de la France périphérique, qui, bon, historiquement et démographiquement, elle est fausse, hein, c'est des populations qui sont ancrées là-bas depuis longtemps, qui, par ailleurs, en fait, ont été formées d'immigrations successives, hein, y compris maghrébines et extra-européenne, extra-française, mais qui en tout cas, il me semble, ne rend pas compte de ce qui se passe là-bas, c'est-à-dire qu'en même temps, on a une déstructuration des grands cadres de reproduction sociale, si on veut, des milieux populaires, avec les usines et leur monde qui ont périclité d'année en année, et dans un autre temps, en fait, on a toute une population qui reste et qui s'arc-boute aux sociabilités, qui essaye de refaire groupe et de recréer du collectif en permanence. C'est-à-dire qu'il me semble que les discours hors sol de ce type-là, ils ratent quelque chose que moi j'ai pu cerner dans mes recherches au fur et à mesure, parce que les gens ont obligé de le voir, en fait, que si tu es tout seul et si tu t'isoles, tu n'es plus personne. Et la figure du perdu, c'est celle aussi qu'on retrouve beaucoup, hein, que vous devez connaître dans votre vie quotidienne, du cas social, de l'assisté, avec ce vocable stigmatisant qui est venu d'en haut, mais qui est repris, en fait, entre les dominés eux-mêmes pour se mettre à distance des autres, et ça c'est bien malheureux peut-être, mais en tout cas c'est comme ça que ça fonctionne, c'est que quand vous n'avez pas d'autre moyen de vous définir que de renvoyer le stigmate sur un autre, et bien, il y a une distanciation latérale qui se met en place, et les jeunes sur lesquels je travaille qui ont très peur en fait d'être au chômage de longue durée, et qui me disent « un homme qui ne travaille pas ne vaut rien », en fait, plus il y a de chômage, plus il y a eu les délocalisations, plus l'image de l'homme qui ne travaille pas et qui vaut rien, elle est omniprésente et elle fait peur à tout le monde. Et donc, comment on se protège de ça, alors même qu'il n'y a plus le syndicalisme, qu'il n'y a plus les usines qui embauchaient à tour de bras avec très peu de chômage? Comment on fait? En fait, on ne se replie pas sur soi-même. On déduit, nous les intellectuels, généralement, que c'est l'individualisme en fait grandissant qui a pris le pas et qui expliquerait que notamment les classes populaires se tournent vers des partis qui promeuvent plutôt la réussite individuelle contre la solidarité collective, etc. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on essaye de s'arc-bouter à des formes de reconnaissance qu'on va bricoler, qui vont être précaires, mais qui vont nous permettre quand même de s'en sortir. Pour le dire très vite, la plupart des personnes que j'ai rencontrées, il y avait à peu près 200 hommes et femmes sur lesquels j'ai pu un peu voir en fait, leur cheminement au cours de ces 10 dernières années, la plupart d'entre eux ont trouvé un emploi et un conjoint ou conjointe, ça c'est aussi très important, via leur bande de potes. C'est-à-dire via un petit groupe, une solidarité à petit rayon, qu'ils se sont ménagés, où ils se vantent en fait, entre eux et devant moi d'avoir fait le tri entre les vrais potes sur qui compter et les autres, les saluts, ça va de l'interconnaissance, avec lesquels en fait ils ne se sentent pas solidaires et desquels ils disent ne pas pouvoir se sentir solidaires. Et c'est ça qui m'a beaucoup interpellé en fait, c'est que c'était des jeunes qui aujourd'hui ils ont 35 ans parce que ça commence à dater les recherches, mais en tout cas ils avaient la conscience que la concurrence quotidienne, elle est inéluctable entre eux. On est sur des régions où l'emploi salarié recule depuis les années 90 et où en fait l'idée que tout le monde peut trouver du travail et s'entendre avec tous, pour eux ça renvoie à une nostalgie d'une époque généralement qu'ils n'ont pas connue mais qui est celle de leur père ou de leur mère, où ils disaient dans le temps tu pouvais tout faire à vélo. Tout faire à vélo, c'est-à-dire que tu allais au boulot en vélo, tu rencontrais ton mari, ta femme, pas loin de chez toi, la vie était beaucoup moins chère, tout le monde s'entendait, on voyait de nouvelles têtes. Aujourd'hui, ben justement, c'est pour boucler la boucle sur l'écologie, on est prisonnier en fait de la voiture. Et Vanessa, là, une des gilets jaunes qui était mobilisée dès le début, elle me dit en fait, moi je fais que manger des amandes, tout est loin, l'école, je dépose le premier gamin dans une crèche qui est dans une communauté de communes regroupée à 15 bornes, après l'école du deuxième, elle est encore à 10 bornes, après elle va bosser parce qu'elle est assistante à domicile, elle aide à domicile, donc elle va, comme elle dit, chez les petits vieux et personne ne la voit travailler, et elle, en fait, elle est prisonnière de ce mode de vie-là, et elle me dit, avec les gilets jaunes et même avec sa bande de copains, ce qu'on ne peut plus faire au travail, c'est-à-dire faire groupe, être reconnu, retisser des liens du collectif, on va le faire de manière informelle, on va le faire ici. Et il me semble que c'est quelque chose auquel il faut réfléchir aujourd'hui pour essayer de comprendre en fait sur quel ressort on peut encore un petit peu appuyer. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe pour ces personnes-là, c'est que d'un côté, ceux qui, notamment dans le mouvement des Gilets jaunes, se sont engagés à long terme, c'est ceux qui ont pu dire « on a refait une famille, on a trouvé une famille ». Très tôt, ils se sont appelés « la famille ». De la même manière que les amis entre eux, ils s'appellent « la famille » et ils disent « la famille avant tout », c'est les amis et les proches familiaux. Et c'est dans ce cercle-là qu'on va se débrouiller pour trouver du travail au black, pour se recommander pour un emploi, parce que quand il y a une bonne place sur le marché du travail, on sait que ça va être par piston. Et on sait qu'en plus, les concurrences, on va souvent être en concurrence avec les gens qui sont le plus semblables à soi. C'est-à-dire que quand vous avez des potes qui vous ressemblent sur tous les plans, et bien c'est souvent avec eux que vous allez vous écharper pour avoir l'emploi dans la communauté, à la commune, ou dans la boîte du coin, dans l'artisanat qui embauche encore. Et donc ces consciences-là les ont amenés en fait à une espèce de conscience collective qui m'a interpellé. Et je voudrais un petit peu conclure là-dessus pour essayer d'ouvrir un débat. En fait, ils disaient plus, ils exprimaient plus en fait l'espèce de nous qui serait relatif aux ouvriers, à leur classe sociale, ni même à nous, les gens du coin, comme on a pu l'expliquer à une époque. Ils disaient tout le temps, on pense déjà à nous, nous d'abord, que nous, les vrais potes sur qui compter. C'est-à-dire que nous, ceux avec lesquels on sent qu'on n'est pas en concurrence et avec lesquels on peut mettre en place des stratégies qui payent. Et il disait sans arrêt, quand il y a des bons plans, notamment sur le marché du travail local, qu'on sait qu'il est atone et très concurrentiel, il ne faut pas le crier sur tous les toits. Si tu veux bosser au black et te faire plus que le SMIC, il ne faut pas le crier sur tous les toits. Et en fait, on voit comment le libéralisme et la mise en concurrence des dominés entre eux a imprimé chez eux à la fois une conscience que le conflit était inévitable, notamment avec ses semblables, mais d'un autre côté, elle porte ces classes populaires-là, donc on dit perdu à jamais, notamment politiquement, parce que je passe les détails, mais soit elles votent massivement pour le FN, hein, les enquêtés, les jeunes hommes et les femmes, soit elles s'abstiennent, mais elles se disent plutôt proches du Front National en termes d'idées, parce que c'est dans ce registre-là, en fait, où ils me disent « Marine, elle est la seule à dire que ça pète de partout, que tout le monde se tire dans les pattes », c'est-à-dire que l'espèce de choc des civilisations qui ne vivent pas du tout à niveau local, et dont on se moque parfois à gauche, hein, à leur rencontre, en disant « il n'y a pas d'immigrés là-bas, mais ils votent FN, ils ne savent pas de quoi ils parlent, etc. » En fait, non, ce qu'ils vivent, c'est une mise en concurrence les uns contre les autres, et ils le retraduisent dans cette espèce de gloubi-glouba un peu cataclysmique que propose l'extrême droite, dans ce qu'ils vivent localement. Et il me semble qu'il y a vraiment un ressort en fait qui demeure, qui est d'arriver à à capter en fait des personnes qui n'ont pas le luxe de l'individualisme, c'est-à-dire que ceux qui n'ont peu de diplômes, peu de moyens économiques, qui ne peuvent pas s'exporter du jour au lendemain. Vous savez que plus on est diplômé, plus on est riche, plus on vit loin de ses chez les parents. Au contraire, ben, plus on va être ancré dans un territoire à mesure qu'on a peu de ressources sociales. Et en fait, eux, ils ont, il me semble, une volonté toujours de perpétuer ça, de perpétuer un collectif pour être reconnu, pour exister, et pour arriver un petit peu ben, voilà, à trouver en fait, une manière de vivre qui les valorise. Et il me semble qu'ils le retrouvent très peu aujourd'hui dans le champ politique, peut-être notamment parce que en fait, leur profil, personnes de classe populaire, issues de familles où on ne fait pas d'études supérieures, on sait qu'ils sont de moins en moins représentés à l'Assemblée nationale. Mais il me semble aussi qu'il y a quelque chose d'autre au niveau de sémantique, je ne sais pas ce que tu en penses, François, qui renvoie en fait à la conflictualité inhérente de la vie quand on est en bas de l'échelle sociale, quand on est parmi les classes dominées, qui est relativement peu exprimée dans les termes dont ils les vivent eux, et qui ne renvoie pas en fait forcément à leur expérience personnelle. Il me semble qu'il y a quelques décennies, si des partis de gauche arrivaient à capter en fait cet électorat qu'aujourd'hui on dit perdu, c'est parce qu'ils assumaient cette conflictualité du monde social et ils l'exprimaient, pas forcément dans des termes simples, mais en tout cas en appuyant sur des leviers qui les concernent. Et c'est ça que le mouvement des Gilets jaunes, je finis sur cette phrase-là, avait réussi, il me semble, c'est qu'il avait trouvé en fait un point d'accord où tout le monde était à peu près d'accord pour dire que tout était loin, que tout foutait le camp, que ce qu'on pouvait plus faire au travail, on allait le faire là, sur le rond-point. Mais que d'un autre côté, on n'a jamais su comment le retraduire encore politiquement. Et que toutes ces jeunes femmes-là, comme Vanessa, qui ont pris en fait le mouvement à bras-le-corps dès les premiers jours, dès lors en fait, que les mécanismes politiques classiques se sont mis en place, même à petit niveau sur un petit rond-point de la Haute-Marne, elles ne se sont pas retrouvées élues parmi leur groupe de gilets jaunes. C'est des mecs barbus, plutôt virils, qui se sont fait élire. Et ensuite, quand on a élu les représentants des représentants, c'était des gens qui habitaient Paris ou la région parisienne, près des médias, qui étaient déjà visibles, en fait, et qui étaient déjà plus proches des catégories sociales qui disent ce qu'est le monde et ce sur quoi à quoi il faut s'intéresser. Il me semble que les enjeux sont de cet ordre-là à partir de ce que j'ai pu voir. Merci.
Tu lances le chrono pour moi, alors. D'abord, tous mes remerciements aux organisateurs, parce que déjà, on sait le travail souterrain qu'il y a à faire pour faire diffuser l'information, qui est le lieu, qui est la sono, qui est l'étape qui soit là. Ça ne s'est pas fait par miracle, ça s'est fait parce qu'il y a des gens qui l'ont fait. Et ça se fait en plus par un temps qui est très emmerdant, qui est ce temps de Covid, où on lance des choses, on les annule, on les recrée, ainsi de suite. Donc, grand merci à vous de nous permettre ce moment. Moi, pourquoi je suis ici? Je suis ici d'abord pour discuter avec Benoît, dont j'ai beaucoup apprécié le livre « Ceux qui restent », parce que ça faisait écho à ce que je rencontre depuis 20 ans comme journaliste. Je suis ici pour une autre raison aussi, je suis ici parce que, pour un mort. Je suis ici pour mon Dieu, raison d'agir, parce qu'il est l'homme, donc j'ai là son bouquin « Question de sociologie », qui a transformé mon regard là-dessus. Je vais vous expliquer ça, mais moi je suis en fac de lettres, et on me dit, un prof me dit, voilà, bon Dieu, que certains appellent bon divin, je ne connaissais pas du tout. Et là, donc, je vais lire la reproduction, je ne comprends rien. Je vais lire la distinction, je ne comprends rien. Et je tombe sur question de sociologie. Je le dis parce que c'est la porte d'entrée dans Bourdieu, pour moi. C'est-à-dire que là, il discute avec des journalistes, notamment, et donc du coup, il est obligé de vulgariser, on comprend ce qu'il raconte. Et, oui, parce que c'est pas toujours compréhensible. Hein, quoi. Et le dernier texte s'appelle « Le racisme de l'intelligence ». Je vais vous en lire quelques lignes, peut-être si je retrouve la page, parce que je ne sais pas du tout la retourner. Voilà. Donc il dit « Il me semble très important de poser l'analyse sur les formes du racisme qui sont sans doute les plus subtiles, les plus méconnaissables, donc les plus rarement dénoncées. Peut-être parce que les dénonciateurs ordinaires du racisme possèdent certaines de propriétés qui inclinent à cette forme de racisme. Je pense au racisme de l'intelligence. Le racisme de l'intelligence est un racisme de classe dominante qui se distingue par une foule de propriétés de ce qu'on le désigne habituellement comme racisme, c'est-à-dire le racisme petit bourgeois qui est l'objectif central de la plupart des critiques classiques du racisme, à commencer par les plus vigoureuses. Je lis ça et pour moi c'est une épiphanie. C'est un choc, mais je vous jure, je lis ça et je sens le moment où je suis bloqué dans ma lecture et j'ai une transe. Je suis contre le radiateur chez mes parents au deuxième étage, je pense que c'est pendant les vacances de Noël, et ma vie change. C'est la vérité. C'est la vérité. Parce que à ce moment-là, je revois mon parcours et je le fais basculer. C'est quoi ? C'est un mec qui s'est fait traiter de bouseux de pecno de plouc comme ça quand il était jeune, qui au fond entre à l'université, peut acquérir de la distinction, lit Charlie Hebdo, se fait le critique du camping, de la chasse, de la pétanque, du bof, et qui là, en voyant ça, se dit « Putain, voilà, c'est ça que t'es en train de devenir. T'es en train de devenir un snob. » Et qui se retourne. Je suis retourné, par mon Dieu. Je suis retourné. Et donc, je fais le choix des ploucs, en un sens. Je fais le choix du plouc dont on me qualifiait. Je fais ce choix-là par une bataille journalistique, on va dire. À côté de Fakir, donc, que je fonde en 99, je suis les ouvriers de Goudieur, de Parisot, toutes les histoires, Parisot, siège de France, dans un petit bled, Berthecourt les Dames, tu vois, qui était un truc de Parisot, Laurence Parisot, c'était les oncles, et le père et les oncles, qui délocalise en Roumanie, donc dans des petits bleds, avec les gars que je suis dans une résignation habituée à passer d'une fermeture à l'autre, des gens qui font plusieurs fermetures dans leur existence. Je le fais en suivant, je le disais tout à l'heure, que deviennent les flots d'or, puisqu'on a même perdu les chips en Picardie, que deviennent les flots d'or ensuite. Je suis les dames qui travaillaient là-bas, qui deviennent auxiliaires de vie sociale, assistantes maternelles, ainsi de suite. Je le fais en faisant des reportages sur le camping et en défendant le camping, je le fais en faisant des reportages sur la métaphysique du tuning, je le fais en faisant des reportages sur les contrats emploi et solidarité, et je le fais en posant, on y reviendra peut-être après, mais la question du protectionnisme. Là, il y a un choix chez moi qui est de faire du reportage de proximité. À un moment où je pense passe par le centre de formation des journalistes, où ce qui est le journalisme noble, c'est le journalisme international, c'est le journalisme culturel. C'est en gros les deux, le journalisme politique. Et je fais le choix, moi, de revenir à Amiens, de rester avec ceux qui restent. Alors, c'est Amiens, hein. C'est pas la campagne autour d'Amiens, hein, non plus. Hein. Mais, et les films que je fais, quelque part, sont aussi des films de proximité. Merci Patron, ça se passe dans le Nord. Le dernier que tu viens de voir, c'est pareil, ça se passe dans mon coin. On fait de l'international, on va en Normandie, donc bon. Mais voilà, et avec Gilles Perret, qui lui aussi fait des films dans son coin. Ma mondialisation, le film qui s'appelle Ma mondialisation, en fait, c'est un film dans sa vallée à lui. Donc voilà, deuxième point, je vais plus m'étendre là-dessus, combat politique. Je fonde ce journal à un moment où Jospin, dans sa campagne présidentielle, n'ose pas prononcer le mot « ouvrier ». Et où Pierre Monroy lui-même, qui n'était pas le plus à gauche, lui en fait la remarque. Je fais ce journal dans un moment où je vois devant moi le fossé de la mondialisation, qui a creusé, tranché comme un fil à couper de beurre entre les éduqués qui s'en sortent et les classes populaires qui se font écraser en série. Et qui non seulement se font écraser sur le plan économique, avec un chômage, avec la peur, c'est presque, il y a le chômage, il y a la précarité, et il y a encore au-dessus la peur du chômage et la peur de précarité. Et on ne comprend rien aux classes populaires si on ne place pas, à mon avis, hein, mais si on ne place pas au cœur de leur expérience le mot peur. La peur. Alors j'entendais la peur de la concurrence, tout ça, mais c'est ça. La peur, c'est par là que ça règne. Et comme si cet écrasement économique ne suffisait pas, comme si l'écrasement politique ne suffisait pas, puisque... Les politiques qui sont menées sont les politiques qui leur sont hostiles. Les politiques de libre-échange, l'acte unique européen, l'élargissement de l'Europe aux pays de l'Est, toutes ces politiques ont été des politiques qui ont écrasé les classes populaires, qui ont fait la disparition, là, des fonderies du Poitou dans le coin, ça sera ça, mais qui ont fait chez moi la disparition du textile, qui ont fait toutes ces disparitions-là aux séries. Je le fais en racontant ça dans des salles où il y a essentiellement des profs, qui viennent me dire « Oui, mais c'est pas gentil parce que tu vas supprimer le boulot des Chinois. » Bon, c'est pas l'objet. Mais je veux dire, nous bénéficions d'une forme de protectionnisme. Je le disais aux députés, les députés français, si on prenait des députés roumains, ça serait bien moins coûteux que ça. Mais il y a la barrière de la langue qui empêche d'avoir des gains de productivité. Mais de la même manière, pour les enseignants, il y a une protection, je ne dis pas que tout soit parfait, mais il y a une protection par la langue qui fait qu'il n'y a pas la même mise en concurrence. Et si le corps social, si les médecins, si tout le monde avait été frappé de la même manière par la mondialisation que l'ont été les classes populaires, la donne aurait changé face au libre-échange dans les années qui suivent, très très rapidement. Il y aurait eu un refus de parce que c'est quoi? C'est en permanence, je veux dire, c'est les mêmes histoires qui recommencent tout le temps. Et ça a été accepté par le corps social, ça a été accepté par le corps politique. Et comme si ça ne suffisait pas, s'y ajoute en plus l'écrasement culturel. C'est-à-dire que c'est les bofs, ils vont au camping, c'est pas bien. Vous voyez par exemple le film Dupont-la-Joie, pour moi, est un grand marqueur culturel d'une gauche qui montre les gens du peuple comme étant des racistes, avec le béret, qui picole, qui viole, qui disent que c'est les bougnoules qui ont fait le coup. Et c'est un film de gauche. Ça dit quelque chose du rapport de la gauche aux classes populaires. C'est vrai que moi, je préfère camping. Je préfère le camping où c'est le chirurgien bourgeois qui arrive et qui finalement trouve que les classes populaires, elles ont des bonnes mœurs. Et avec toutes des codes binaires qui se mettent en place, avec l'ouverture aux autres, c'est bien, la fermeture, c'est pas bien, la fermeture, c'est le peuple, l'ouverture, c'est les classes éduquées, il y a les bas de plafond, et de l'autre côté, il y a les cultivés, il y a les mobiles, et il y a ceux qui sont comme des moules accrochés à leur clocher. Moi, j'ai entendu ça hein, pendant mes reportages. Et moi, je me bagarre quelque part contre une tendance Manu Chao à aller faire la révolution à l'autre bout du monde. Quand c'est aussi sous nos pieds qu'il faut voir qu'est-ce qu'on fait évoluer à sa porte, au village à côté, s'y rajoute en plus, dans la gauche, un rejet des questions nationales, avec la Marseillaise, le drapeau tricolore et ainsi de suite, qui sont des symboles, qui sont aussi des symboles populaires. Et que si on les rejette, le peuple, lui, s'en fait une fierté. Ça pose cette question-là. L'un des premiers textes que je produis, je ne suis même pas encore à Fakir, mais c'est une réhabilitation de l'accordéon. Et il y a un intellectuel parisien, donc c'est collé sur des murs à Paris, à la Butte aux Cailles, et il y a un intellectuel parisien qui passe par là et qui dit que c'est un texte fasciste. C'est le Front National, parce qu'il y a une défense de l'accordéon. Je pense qu'il faut dire quelque chose, c'est que sur le plan culturel, on a progressé, enfin, on a un peu rabiboché des trucs. Quand je vois qu'il y a des reportages dans Le Monde 2 sur les gens qui jouent à la pétanque au canal Saint-Martin, je me dis qu'il y a du progrès. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est quelque part une réhabilitation, la pétanque. Le camping, plus ou moins, il y a eu un raccommodage d'un certain nombre de trucs comme ça. Après, il y a des grands moments, des grands temps de marqueurs de ces ruptures-là. Il y a évidemment 2005. 2005, c'est le peuple qui dit non à 55% à la concurrence libre et non faussée, à la libre circulation des capitaux et des marchandises, y compris avec les pays tiers, et c'est traduit immédiatement par la presse de gauche, c'est-à-dire par Libération, par Serge Julie à l'époque, comme une épidémie de populisme. Moi, je m'en fais une fierté du populisme. Populisme, la seule définition qu'il y avait, il y en a une autre qui a été rajoutée, mais qui est flatteuse aussi, la seule définition qu'il y avait, parce que ça m'avait marqué, vous savez, je suis un grand lecteur de Henri Calais, Yves Gibeau, d'auteurs comme ça, dont je sais qu'ils ont reçu le prix du roman populiste. Et donc je ne comprenais pas comment ça se fait que populiste était devenu une injure. Et je regarde dans le dictionnaire, et la seule définition qu'il y avait, c'est courant littéraire s'appliquant à décrire avec réalisme la vie des gens du peuple. Mais ça devrait être une fierté pour les journalistes, de chercher à décrire avec réalisme la vie du genre du peuple. Voilà un essai sociologique tout à fait populiste. Oui, mais voilà, donc, et c'est retourné comme un stigmate, alors que ça pourrait être une fierté. Un autre temps de ce marqueur de rupture, c'est évidemment la note de Terra Nova, qui dit que, bon, de toute façon, les classes populaires, c'est perdu, elles vont aller au Front National, c'est même pas la peine de lutter, en 2012, et donc, bon, parce que ce qu'il leur faudrait, c'est du protectionnisme, mais comme nous, on ne veut pas mettre en place de protectionnisme, eh bien, on préfère les abandonner au Front National. C'est noté tel quel dans la note de Terra Nova. Et j'étais content de le lire. Pourquoi? Parce que d'habitude, les socialistes le faisaient sans le dire. Au moins, maintenant, c'était marqué. Il y avait une certaine clarté à l'égard de cette question qui, moi, me paraît une question centrale, qui est la question du libre-échange. Je discutais avec donc un politiste amiénois qui est Patrick Lingue, et qui expliquait le vote Front National, donc je vois une autre explication, mais qui je pense plus complémentaire qu'antagoniste, comme étant un vote d'homologie de position. C'est-à-dire que quelque part, ce n'est pas qu'ils se reconnaissent dans les propositions de Marine Le Pen du tout forcément, mais c'est que, grosso modo, Le Pen occupe dans l'espace politique, en étant marginalisé, la même position qu'occupent les classes populaires dans l'espace social. Et quelque part, il va y avoir une reconnaissance, non pas dans les propositions, mais dans la position qui est occupée. Surgit le mouvement des Gilets jaunes, qui est ce que j'espère, moi, depuis que j'ai commencé Fakir. Parce que je vois les gens éclater quand même, se rebellant pas. Et je ne croyais pas que ça allait advenir. Je ne croyais pas que j'allais voir un jour ça dans ma vie. C'est-à-dire, je dis, les muets qui deviennent bavards sur les ronds-points, les invisibles qui mettent un gilet jaune, et la résignation qui se transforme en espérance. J'attendais ça. Et quelle est, mais sans trop de surprise, les premières réactions de la gauche, avant le mouvement, avant même qu'il y ait le mouvement, avant même le 17 novembre, à la fois dans le monde syndical et dans le monde politique, c'est pour le moins de la méfiance. Pour le moins. Et c'est bien des fois, sur les réseaux sociaux, les gens qui sont les plus à gauche, qui vont plus dire que ce sont des fascistes, avant même d'avoir été voir qui sont ces personnes. Et là, c'est sûr que pour moi, il y a « je dois y être, je dois en être, je dois aller voir, je dois témoigner ». On verra bien qu'est-ce que c'est. Mais on doit aller voir. Et moi, très vite, je vois que la question sociale est quand même une question qui est centrale dans les discussions des jeunes hommes. Ensuite, ça va devenir de la discussion démocratique. Moi, je pense même qu'il y a la question métaphysique qui est posée. Alors, ça y est, je pars dans mes délires, c'est pas grave. La question métaphysique, parce qu'au fond, quel est le sens de ce qu'on fait? Quel est le sens de ce qu'on fait ensemble? Je pense que pour les gens, c'est impossible de poser la question comme ça. On a l'air con, quoi. Et je pense que sur le rond-point, c'est un moment où se pose cette question-là. Quel est le sens? Et donc, pour moi, il y a un travail à ce moment-là, au moment des Gilets jaunes, qui est la traduction de ce que j'espère depuis des années, de faire qu'au moins, ça ne décroche pas entre la gauche et le mouvement des Gilets jaunes. Qu'il n'y ait pas là une coupure qui aurait été un divorce définitif. Le divorce, il est déjà là, entre la gauche et les classes populaires. Mais il aurait été définitif, à mon avis. Je dois dire, moi, avec satisfaction, que quand j'ai pris cette position-là au sein de la France Insoumise, de notre groupe parlementaire, j'ai été immédiatement suivi par Jean-Luc Mélenchon. Et que je pense que ça a été un moment décisif qui fait qu'il n'y ait pas une rupture qui soit une rupture définitive. Et qu'on y allait. Ça ne veut pas dire que c'était un mouvement de gauche. Ça pouvait être tout et son contraire. Mais c'est aussi la traduction politique qu'on en fait. Les mots qu'on pose sur un combat, ça donne aussi un peu de sens au combat. Maintenant, quelle est la suite? On gagnera, ouais, c'est bon. On gagnera pas sans eux. On gagnera pas politiquement sans eux. Regardez les résultats de dimanche, j'ai regardé pour votre coin là. Les écolos, ils font 32% sur Poitiers même, ils font 11% en comptant la totalité de la Vienne. Ça veut dire un décrochage énorme. Si il n'y a pas une force d'entraînement, y compris des classes populaires rurales, on n'y arrivera pas. Donc là, il y a une nécessité politique à ce que les gars du coin, ceux qui restent, les filles du coin, puisque c'est trois ouvrages différents, et il faut montrer que, pour moi, il y a une résurgence de cette question-là, à laquelle tu appartiens. Bon, je vois que tu n'es pas d'accord avec Christophe Guilluy, mais ce n'est pas grave. Mais quelque part, il a participé quand même à rendre audibles ces questions de la France périphérique, même si tu veux l'appeler autrement. Moi, je ne suis pas sociologue, donc je... Enfin, voilà. Mais, et par exemple, sur le plan culturel, c'est plus ou moins ta région, en tout cas c'est l'Est, le bouquin sur leurs enfants après eux. Donc, ce qui était une non-question, des invisibles, qui n'existait pas, entre autres par le mouvement des Gilets jaunes, mais pas seulement, ça se remet à émerger. Maintenant, ça peut émerger pour une autre raison. C'est que la mondialisation qui les a frappés de front, et à laquelle le corps social a consenti pendant toutes ces années, maintenant, d'une part, elle touche la classe intermédiaire aussi. Vous savez, c'est les Horaces et les Curiaces. ça a attaqué les classes populaires, ça attaque les paysans, ça attaque la classe intermédiaire. Donc il peut y avoir une prise de conscience du danger commun que représente cette mondialisation, d'autant plus qu'il y a la question écologique. Et que quand j'entends un Nicolas Hulot qui dit que, écoutez, la première chose à résoudre, c'est la question du libre-échange, que c'est la cause de tous les troubles climatiques, et que ce n'est pas en installant 3 éoliennes qu'on va s'en sortir, ça pose quoi ? Nicolas Hulot étant, en gros, le porte-voix de la classe intermédiaire sensible aux questions écologiques. Ça pose la possibilité d'une jonction des classes populaires et des classes éduquées sur cette question qui est, à mon avis, centrale du libre-échange. Et pour moi, la jonction de ces deux classes, elle est absolument nécessaire, même quand on regarde notre histoire. Qu'est-ce que c'est que 1789 ? C'est la jonction friction, parce que tout ça, c'est jamais un mariage d'amour, hein, non plus. Hein. Mais c'est la jonction friction des classes populaires qui prennent la Bastille, qui font la grande peur, et des éduqués, des avocats et des propriétaires terriens, qui sont les représentants du tiers-État à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que c'est que le Front populaire ? C'est les intellos qui disent non au fascisme, c'est les prolos qui disent 40 heures congés payés. Qu'est-ce que c'est que mai 68 ? C'est le mai 68 des étudiants et c'est le mai 68 des ouvriers. Qu'est-ce que c'est que mai 81 ? C'est la jonction des profs qui votent massivement pour François Mitterrand et 74% des ouvriers qui votent pour François Mitterrand. Le problème de 81, c'est que on a eu les urnes, on n'a pas eu la rue. Le problème de mai 68, c'est qu'on a eu la rue, on n'a pas eu les urnes. Donc, mais maintenant, si je m'adresse comme ça à vous, c'est que il y a un enjeu à reparler, à retisser le lien entre ces classes populaires des campagnes et ce que je perçois comme étant un public largement éduqué et urbain. Comprendre que quand bien même on aurait un discours qui soit plus adapté, et je pense qu'aujourd'hui il ne l'est toujours pas, le mépris, la gauche a été la gauche du mépris, plus que la droite sans doute, à l'égard des classes populaires pour une certaine part. Ça marque des histoires. Les décisions politiques qui ont été prises là de manière partagée par la droite et la gauche sur les libre-échanges, elles se sont inscrites dans la durée. Ça ne va pas s'effacer de la conscience des gens par un miracle. Maintenant, je pense que c'est une bataille qui est à mener. C'est une bataille qui est à mener sur le plan du vote. Je veux dire, il y a des échéances qui sont importantes dans un an et qui est une bataille culturelle, idéologique à mener dans la durée. Mais si on ne parvient pas à tenir ces deux bouts, qui sont fin du mois, fin du monde, qui sont classe éduquée, classe populaire, je pense qu'on est cuit. C'est l'enjeu qui me paraît politiquement central. Je vous remercie.